Il s'agit de notre patrimoine et de nos identités. Elles concernent toute la vie en société et nous accompagnent déjà au quotidien. Ce sont les humanités numériques qui s'appuient sur la dématérialisation du savoir et de la culture. Fini les photos jaunies et cornées ou la musique gravée sur des disques en vinyle. Les anciens supports d'information deviennent des fichiers. Notre monde est-il en train de devenir totalement immatériel? Les humanités numériques posent un défi à notre société. On en discute aujourd'hui dans le dossier de la Tête au Carré avec mes invités dans un instant. À la une de la science aujourd'hui, un projet très ambitieux qui vise à synthétiser le génome humain. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, un papier qui fait grand bruit dans le monde de la génétique avec des enjeux éthiques et économiques colossaux. On touche du doigt l'avenir et la vie artificielle dans un instant à la une.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons comme chaque mardi la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy. Émission aujourd'hui en public et en direct du studio 621 et je salue chaleureusement les élèves de la classe de première S du lycée Léon Blum de Créteil. Ils nous accompagnent aujourd'hui avec leur professeur. Bonjour à vous tous. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée par Dinan Beiner.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
On les appelle donc les humanités numériques. Elles sont au cœur de notre dossier dans quelques instants. Dominique Vinck et Dominique Cardon, bonjour à vous
bonjour.
Deux.
Bonjour.
Bienvenue. Dominique Vinck, est-ce que notre monde est entré dans une nouvelle civilisation qui signe l'arrêt de mort de tous les supports matériels?
Nouvelle civilisation, oui. Arrêt de mort des supports matériels, non.
Non. Ils vont encore vivre de leur belle vie pendant encore un petit moment.
Oui. Oui.
Même si petit à petit, quand même, on voit des gros changements et des remplacements. Hein.
On voit surtout la création de nouvelles formes, mais qui ne vont pas nécessairement se substituer aux anciennes.
Dominique Cardon, est-ce que la société plonge avec délice, voire aveuglement, dans la vie dématérialisée?
Ben, elle y plonge à grande vitesse, oui, oui, mais aveuglement, pas forcément. On est finalement effectivement très accaparé par ces outils, mais il y a aussi plein de manières réflexives, stratégiques, de savoir aussi mettre à distance certains de ces éléments.
On en parle avec vous dans quelques minutes et avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Et un pas de plus vers la vie artificielle. Les biologistes de synthèse et les généticiens maîtrisent à peine les techniques de modification ciblée du génome et ils voient déjà plus loin. Ils pensent à réécrire complètement les molécules d'ADN, qu'elles soient humaines ou bactériennes. C'est ce que propose de faire en tout cas dans un futur proche l'équipe de George Church dans une publication qui vient de paraître et qui suscite de vifs débats. Pour en parler, nous sommes en studio avec le xénobiologiste Philippe Marrière. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous nous rappelez ce qu'est un xénobiologiste, Philippe Marrière? Je vous le demande à chaque fois, mais c'est bon de le rappeler.
Alors à chaque fois, j'improvise. Hein. cette fois-ci, ça va être c'est l'art de fabriquer des organismes qui sont complètement différents de tous les organismes sur Terre pour protéger les organismes sur Terre.
Vous êtes chercheur en biologie synthétique et généticien au Genopole d'Ivry. Alors de quoi s'agit-il? Que souhaite faire ce monsieur Church avec l'ADN exactement?
En fait, il souhaite fabriquer un génome humain de synthèse à toutes fins utiles. Et c'est là que ça se complique un peu parce que est-ce que c'est pour humaniser un babouin ou est-ce que c'est pour faire des lignées cellulaires qui ne seraient pas des individus ou est-ce que c'est pour produire des protéines humaines? C'est pas très très clair, on ne sait pas très bien. En tout cas, l'enjeu sous-jacent, c'est la fabrication massive d'ADN.
Est-ce qu'on est techniquement capable aujourd'hui de créer de bout en bout une molécule d'ADN humain?
Non, on n'est clairement pas capable. On est capable de fabriquer un million de lettres, d'enchaîner un million de lettres, ce qui correspond au texte génétique d'une bactérie. Mais là, on parle de l'ordre du milliard, donc c'est mille fois plus grand, et techniquement, c'est un vrai défi. Mais c'est un peu un défi, comme dans l'astronautique, au début, vous aviez des cerfs-volants dans lesquels on montait, et puis un jour, on a eu un Spoutnik, et puis maintenant, on a une station orbitale, etc. Donc c'est clairement la fabrication de matériel héréditaire, à grande échelle, avec des textes de notre cru, c'est clairement l'avenir des biotech. Et bien entendu, ça pose énormément de questions, de précautions, tout ce qu'on veut, mais c'est clairement le mouvement historique qui a commencé en 1950, je dirais, depuis qu'on a découvert la
Oui. C'est déjà une réalité dans le laboratoire de ce monsieur Church ou là c'est juste une idée posée sur du papier?
Non, je peux dire ce que j'ai sur le cœur.
Ouais, mais bien sûr, Philippe, confiez-vous.
Oui, alors en fait, le grand pionnier, il y a une question de sous-jacente de rivalité entre Craig Venter, l'équipe de Craig Venter, qui est le Gutenberg du truc, oui. Quoi, qui a vraiment mis au point les techniques de fabrication de ce texte génétique. Et puis George Church, qui jusqu'à présent, qui a un énorme labo, un empire à Harvard, et qui jusqu'à présent disait qu'il fallait, ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, peut-être que vous pouvez m'aider, éditer, c'est-à-dire rectifier.
Modifier, de manière ciblée.
Voilà. Plutôt que fabriquer complètement le texte. Et donc on a vu George faire opérer il a longtemps prétendu qu'on y arriverait simplement à faire tout ce qu'on voulait en biotech en changeant le texte. Mais là, il a opéré un virage à 180 degrés. Il dit il faut fabriquer du texte génomique en entier. Et donc, il se met sur les
plates-bandes de Greg Venter.
Exactement.
D'un point de vue éthique, est-ce que c'est vraiment souhaitable de placer l'humain comme objectif final de cette
technologie ? Je comprends pas qu'il ait fait ça, franchement, parce que, évidemment, ça suscite, alors peut-être c'est pour le buzz, mais ça suscite immédiatement des réactions très tranchées et à la fois de soutien des geeks, transhumanistes qui disent super, on va défragmenter mon disque dur génétique d'un côté, et puis de l'autre des gens qui veulent dont je fais partie, hein, qui veulent préserver la nature humaine, hein, et qui disent la réécriture des textes génétiques, ça doit concerner peut-être une enclave d'organismes, mais surtout pas les humains.
Mais si on oublie les humains, éditer, synthétiser comme ça un génome entier, à quoi ça va nous servir dans l'avenir ?
Alors, d'un point de vue utilitaire, ça va nous servir à faire des biofuels, à faire des médicaments, et à les faire de manière beaucoup plus rentable au sens mise en œuvre des moyens de production. C'est pas rentable au sens enrichir les actionnaires, si vous voyez ce que je veux dire. C'est mobiliser moins de moyens, moins d'énergie, et polluer moins l'environnement pour le faire.
Mais est-ce que ça pourrait également soigner tous les dysfonctionnements liés à l'ADN ou pas ?
Ça aidera. On peut toujours intervenir de l'extérieur quand il y a une pathologie. Mmh. Intervenir à l'intérieur, si je puis dire, pour changer le génome, c'est une question qui n'est pas du tout tranchée et qui aujourd'hui n'est pas autorisée. Il n'y a pas d'humain transgénique sur Terre à notre connaissance. Je crois que les Raéliens, tout ça, avaient dit qu'ils étaient partis là-dedans, mais on n'a pas de preuve scientifique qui ait jamais eu ça encore. Mmh. Espérons que ça dure.
Ouais, mais pour vous, ce monsieur Church, c'est un fou furieux
Non, Church est un très grand scientifique.
Ou au contraire, un grand scientifique, va dans des territoires un peu inconnus pour l'instant.
C'est un très grand scientifique qui sert de tous les moyens de communication à sa portée. La dernière fois, il cherchait des mères porteuses pour ressusciter les Néandertals, vous rappelez ça ?
C'est
après,
vrai.
Il était revenu en arrière en disant « c'était pas du tout, on a sorti la phrase de son contexte, des trucs comme ça », mais il l'a vraiment dit. Ouais. Donc, il est coutumier du fait. Mais il est sympa, hein. C'est un gars très 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 divertissant et très fort.
Vous parlez de rivalité du monde des techno-geeks, de la Silicon Valley. C'est quoi
la Silicon Valley. On en a les transhumanistes, des gens qui veulent nous changer en profondeur. Il y en a partout, il y en a en Europe.
On sent bien qu'il y a des enjeux derrière. Quelle est l'ampleur des enjeux derrière ce papier et ce débat en ce moment?
Bon, alors l'ampleur, si vous voulez, techniquement, c'est fabriquer le texte de notre choix. Donc en fait, c'est principalement dans l'immédiat pour des micro-organismes, pour des levures. Vous savez que la levure est en train d'être rectifiée complètement. Hein, c'est le travail de Jeff Bock aux US aussi, qui était à la fameuse réunion qui a fuité, la réunion organisée par George Church, et des micro-organismes et peut-être des plantes. Certaines plantes ont un gros génome, mais c'est ça l'enjeu pour mettre plus de vitamines dans les végétaux à des fins de nutrition et de protection de l'enfance, par exemple.
Donc ce sont de nouveaux OGM, au fond?
Vous savez que je...
Oui,
bien sûr, ce sont des nouveaux OGM.
Voilà, merci.
C'est des organismes artificiels, c'est plus artificiel. Modifié.
Oui, voilà. Mais le radis que vous avez ou la tomate cerise, ce sont des organismes artificiels.
Dominique Vinck et Dominique Cardon, j'aimerais bien vous entendre. Ça vous inspire quoi, justement, ce type de tentative, en tout cas, dans les labos de recherche, Dominique Vinck?
Ça pose beaucoup de questions, mais en même temps, il y a des connexions qui vont se faire avec les humanités numériques. Parce que dans le domaine, pas que dans le domaine des sciences humaines, mais il y a un problème de savoir comment conserver la mémoire de notre patrimoine. Et une des questions se pose de savoir sur quel support. On sait bien que les CD, ça dure 10 ans. Le papier, c'est mieux, ça dure 2 siècles. Le parchemin, c'est encore mieux.
L'ADN, c'est un bon support ?
L'ADN, ça pourrait durer 700 000 ans.
Et voilà.
Le problème, c'est écrire. Et puis surtout pouvoir lire. Donc il faut imaginer, dans 700 000 ans, est-ce qu'on aura encore les technologies de savoir-faire permettant de lire ce qu'on aura écrit aujourd'hui?
Philippe Marlière.
Je crois que George avait lui-même son dernier livre, il l'a écrit en ADN. Il l'a écrit en ADN et il l'a diffusé sous forme de clone. Donc c'était aussi un passage symbolique.
Dominique Cardon.
C'est une grande métaphore sur l'idée que tout est information. Hein, finalement,
même l'ADN.
L'information numérique, les textes, les bibliothèques numériques, et l'ADN est aussi une information. Et donc il y a cette prétention qui court à travers toute l'histoire de la science, mais qui est quand même plus une promesse pour l'instant qu'une réalité, de dire que l'information va être le point de réconciliation et le carrefour des rencontres disciplinaires. Mais moi, je vois par exemple dans le monde des algorithmes, où la métaphore biologique du biomimétisme, de dire on va faire des réseaux de neurones, alors on emploie beaucoup réseaux de neurones, mais bon, quand on regarde ce que font les informaticiens qui font les 10 réseaux de neurones, ça ressemble quand même pas beaucoup à un neurone, et évidemment le nombre des neurones informatiques n'a rien à voir avec le nombre des neurones du cerveau.
Il y a une technique dont on parle beaucoup en ce moment, c'est CRISPR-Cas9. Est-ce que justement là, on pourrait dépasser cette fameuse technique de modification justement du génome ?
Aujourd'hui, c'est la technique la plus efficace de modification, mais c'est une technique qui permet d'envisager l'éradication des moustiques, par exemple. Vous voyez, l'extinction programmée de certaines espèces dans les habitats naturels. Et ça, c'est tout à fait, un peu l'antipode de ce dont je parlais tout à l'heure, qui est d'avoir une enclave artificielle, mais sans toucher et sans éditer la nature. Je voudrais aussi peut-être parler
très vite
de l'enjeu économique de ça, parce qu'il y a un enjeu de suprématie technologique là-dedans. Je dois dire que nous sommes spectateurs de ce qui se passe à Harvard et tout ça, et en fait en France on voit que ce genre de concept d'avoir des ressources humaines génétiques disponibles avait été dans la foulée de ce qui s'était de la découverte de l'élucidation du génome humain en France, et que la France là est en train de se tirer une balle dans le pied. On vient d'apprendre ce matin que Christian Bréchot, qui est directeur de l'Institut Pasteur, n'allait pas être reconduit l'année prochaine. Donc pendant qu'on a les extravagances américaines, on a des gens, des personnalités aussi charismatiques, aussi respectées et aussi audacieuses que le directeur de Pasteur qui va être limogé, ce qui est plus grave que l'histoire des crédits escamotés de la semaine dernière.
Voilà, c'était pas prévu, mais c'était le coup de gueule de Philippe Marmaier. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette illustration donc autour de la création de vie artificielle très largement et de cette publication donc la semaine dernière. Merci beaucoup Axel.
À bientôt Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, LISA Pathfinder qui dépasse toutes les espérances des chercheurs. LISA Pathfinder, c'est ce satellite de l'Agence spatiale européenne lancé en décembre et qui avait pour objectif de valider les technologies clés dans les observations d'ondes gravitationnelles depuis l'espace. Et bien, dans une conférence de presse donnée par l'ESA ce matin même, les chercheurs déclarent que les premiers résultats surpassent toute attente avec un niveau de précision bien supérieur à ce qui était prévu. Prochaine étape, le lancement du projet ELISA d'ici 10 ou 15 ans qui aura lieu pour objectif d'effectuer des observations des ondes gravitationnelles grâce à 3 satellites. Des insectes comme vous ne les avez jamais vus, le Muséum d'histoire naturelle de l'Université d'Oxford expose en ce moment même de très belles photographies d'une partie de sa collection d'insectes en très grand format et en haute résolution. En collaboration avec le photographe Levon Bis, les clichés mesurent jusqu'à 3 mètres de large. La collection des insectes du muséum contient plus de 7 millions de spécimens provenant de tous les pays du monde. Et vous pouvez découvrir ces photos splendides et zoomer à volonté justement sur les insectes en allant sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et puis les anguilles capables de sauter hors de l'eau pour délivrer leur douloureuse décharge électrique. Une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science montre que non seulement les anguilles sautent hors de l'eau pour attaquer leur proie, mais elles augmentent également leur tension électrique de cette manière. Plus l'anguille saute loin hors de l'eau, plus elle délivre un choc électrique important. Les scientifiques à l'origine de cette découverte ont pu filmer cette expérience et la vidéo est à retrouver elle également sur la page Facebook de l'émission. Allez, les humanités numériques, c'est le dossier dans un instant.
J'y pense tout le temps, et pour que ça passe, je m'automédique, j'avale les extra merdiques. Ouais. Et je me dis que ça va. Et quand tout fout le camp, je prends la poudre des scampettes. Mes tempes m'ont pour ralentir, que les voix se taisent. Après la tempête, je flotte dessus mes hantises, dessus la peur d'être fou, allié. Marteau comme ici les requins, que j'aimerai qu'on le quinte au fond du bocal filé. Ouais, je crains de finir fou, allié. Marteau comme ici les requins. Sous ce l'étiquet locaste pour des cils tropicaux. Pastilles multicolores pour que les dieux décollèrent. Dans la discothèque poussent des palmiers collés, croco
bateau de la coste. Descendons en parachute dans cet infini paradis. La pensée à cette heure, pas vu des radars satellitaires. Sait-il est-elle ici réelle, abandonnée, ou bien dans ma tête un récif peuplé de sirènes qui disent que je suis fou allié. Partout comme ici les requins que j'ai dans la conquête, un tout petit grain caféiné. Elles disent que je suis fou allié. Marteau comme ici les requins, sauce des tickets locales pour des cires tropicaux. Mais où suis-je? Et qui sont tous ces gens qui enfilent des perles au cou, d'autres va-du-pied. La vie, je courtise les fidèles locaux, enfilent des perles au cou, d'autres va-du-pied.
Foily avec Feu Chatterton à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Avec aujourd'hui les humanités numériques, la culture face aux nouvelles technologies. C'est un livre publié aux éditions du Cavalier Bleu et c'est le dossier de l'émission cet après-midi. Dominique Vinc, vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui est imprimé sur du papier mais qui existe forcément également en format numérique. Vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste de la sociologie des sciences et des techniques à l'Institut des sciences sociales et vous dirigez le laboratoire de culture et humanité digitale. Et puis à vos côtés, Dominique Cardon, sociologue au laboratoire des usages d'Orange Labs et vous êtes professeur associé à l'Université de Marne-la-Vallée. L'année dernière, vous avez publié « À quoi rêvent les algorithmes ?» On en avait parlé dans cette émission. Nos vies à l'heure des Big Data, c'est aux éditions du Seuil, avec les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages, franceinter.fr et le mot-clé « L'attaque », et puis des questions qui pourront également venir peut-être de la classe de première S du lycée Léon Blum de Créteil, avec nous dans ce studio. Dominique Vinc, est-ce que l'espace numérique qui nous entoure et dans lequel donc nous vivons visiblement au quotidien est en train de bouleverser notre civilisation ?
Oui. Oui, et à commencer par le travail des chercheurs, ne fût-ce que pour l'accès à des, aux données ou aux matériaux sur lesquels ils travaillent, notamment dans les sciences humaines, classiquement un historien qui devait se déplacer loin pour avoir accès à des archives, remplir des fiches, attendre qu'on lui livre son carton, etc. Désormais, pour beaucoup d'archives, il peut y avoir accès en ligne, ce qui lui fait gagner du temps, mais ce qui lui permet aussi de consulter plus d'archives, de comparer des archives et du coup de poser des questions de recherche qui sont différentes.
Ouais, alors vraiment, cette question des humanités numériques, c'est toute la question de la dématérialisation des supports ?
Oui et non. On pourrait plutôt dire une rematérialisation. C'est-à-dire, oui, on quitte le papier, on quitte la matérialité des poteries ou des tableaux ou des enregistrements sonores, mais c'est pour les reconstruire sur d'autres formes matérielles. Le livre numérique, c'est sur des écrans qu'on touche, qu'on regarde, qu'on manipule avec des claviers, des souris ou d'autres dispositifs. Et puis derrière, il y a des serveurs, des satellites, des câbles transatlantiques. Atlantique, oui, on n'est pas dans immatériel.
Absolument. Le côté écologique d'ailleurs de cet aspect, Dominique Cardon, il faut vraiment le temporiser parce qu'effectivement, les big data tout simplement, ce sont des grosses usines aussi qui prennent beaucoup de place et qui dépensent beaucoup d'énergie.
Absolument. Hein. C'est d'immenses fermes de serveurs et ces serveurs, ils chauffent. Ouais. Et du coup, il faut les refroidir. Et on dépense une électricité considérable à refroidir ces machines qui chauffent. Donc, effectivement, rien n'est plus matériel que ces nouvelles humanités numériques. La différence, en fait, moi, me semble-t-il, c'est surtout la question de l'accès. C'est-à-dire qu'il fallait, comme le disait Dominique Vinc, là, tout de suite, il fallait se déplacer dans le monde tangible pour aller chercher l'information. Là, à travers le tout petit écran de notre téléphone portable, on a accès à tout. Donc, on passe par un trou d'aiguille qui donne tout d'un coup accès à une immédiatement et tout de suite à une foule d'informations qu'il aurait été incroyablement compliqué, long, coûteux et difficile d'accéder autrefois. Elle n'était pas inaccessible, mais elle n'était pas aussi immédiate, tangible et tout de suite là, à côté de nous, ouais, dans notre main.
Alors ça, Dominique Vinck, justement, c'est un processus qui n'est pas né avec nos smartphones. Hein. En réalité, il a commencé il y a plusieurs décennies déjà. Hein.
Oui, mais on pourrait presque dire un siècle. Hein. Je pense beaucoup à tout le travail de Paul Lottelet dans les années 1930, qui rêvait de n'avoir sur son bureau qu'un téléphone, on pourrait dire un écran de télévision, un ouais. téléphone, ne plus avoir de papier, de téléphoner aux bibliothèques pour qu'on fasse apparaître sur son écran de télévision la page du livre qu'il voulait consulter. C'est ce qu'il écrit en 1934.
Ouais. Donc, et mais là, puis, c'est de la science-fiction à l'époque.
C'était de la science-fiction, n'empêche que son idée était d'un peu digérer toute la connaissance qu'il y a dans les livres, tout mettre en fiche, alors c'était des fiches cartonnées, alors il y a des armoires, et ça existe toujours, hein. On a des armoires, des tiroirs, des collections de fiches cartonnées. L'idée, c'était de mettre tout le savoir en fiche et de pouvoir l'interroger, je dirais directement, consultant à distance.
Dominique Cardon.
Oui, on peut aller à Mons, en Belgique, voir la bibliothèque Le Mondanéum, cette immense rêverie de Paul Lottelet qui a rêvé Internet, en fait, et qu'il a fabriqué avec des fiches en carton. Ouais. Hein, et qu'il a mis dans d'immenses tiroirs de classeurs de grandes bibliothèques, avec une vision qui est très originale. Et ça, je pense que ça parle vraiment à l'humanité numérique, c'est qu'à la différence des bibliothèques classiques, on classe les livres de l'extérieur avec le titre, le nom de l'auteur, l'édition, le genre. Lui, il voulait classer les idées de l'intérieur. Donc, il lisait les livres, il les résumait. Et on pouvait aller d'une idée à une idée, d'un livre à un livre, à travers le contenu.
Ça nous rappelle des procédés qu'on utilise déjà aujourd'hui, hein, avec les liens.
L'invention du lien hypertexte.
Exactement.
Et donc, ce mondanéum, cette bibliothèque de tous les savoirs, alors, et qui pour lui était associé à l'idée, et ça, c'est aussi très présent dans la culture numérique, à l'idée que réunir tous les savoirs du monde, de toutes les langues, de toutes les manières, de toutes les... c'est établir la paix dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet politique derrière, ce projet un peu boy scout, hein, de l'idée que la fabrication et le partage des connaissances, c'était aussi une manière d'établir des rapports humains pacifiés, ouais, et sur un type nouveau. Et donc c'est une immense rêverie politique qui a joué un rôle important dans l'imaginaire du réseau et dans l'imaginaire d'Internet.
Avec une belle forme démocratique dans l'accès au savoir et à la culture, Dominique Vinck, hein.
Oui, en tout cas, au niveau d'un certain nombre de rêves, au niveau d'un certain nombre de discours. En même temps, il ne faut pas être naïf parce que c'est aussi devenu un marché, un nouveau capitalisme, avec des entreprises qui font des profits considérables. Il suffit de penser à Google, mais il y en a d'autres. Et puis, je pense à mes collègues de l'École Polytechnique à Lausanne. Une des raisons pour lesquelles ils se lancent sur les humanités numériques, c'est aussi parce qu'ils voient l'opportunité de faire de l'innovation, de l'invention technologique, de l'innovation, de créer des start-up et d'impulser de nouvelles dynamiques économiques. Donc, on a à la fois les deux, ce beau rêve, je dirais, humanitaire et en même temps un marché, un business.
Allez, un camarade du lycée Léon Blum qui se lance pour poser la première question. Bonjour jeune homme, quel est ton prénom ?
Mon prénom c'est Naïm.
Bonjour Naïm, on t'écoute.
Moi, ma question c'est par rapport au fait que les livres deviennent dématérialisés de plus en plus, même c'est le cas avec des tablettes qui permettent de lire. Est-ce que les auteurs en perdent de l'argent ou en gagnent justement? Faudrait peut-être arrêter ou pas pour qu'ils continuent à vivre.
Ouais. Même question pour le disque, hein, d'ailleurs, le support musical aussi.
Je ne saurais pas dire d'un point de vue économique. Et puis, de toute façon, parmi les auteurs de livres, il y a vraiment de tout. Enfin, il y a quelques auteurs qui vendent des best-sellers et qui peuvent en vivre, mais l'immense majorité des auteurs ne touchent ou presque rien, voire payent pour pouvoir être édités. Donc, le fait de pouvoir diffuser ses écrits avec des supports éventuellement plus largement accessibles et meilleur marché, ça peut être un atout pour beaucoup d'auteurs.
On va aller dans les coulisses de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, évidemment, avec lequel nous travaillons très régulièrement et qui a entrepris depuis longtemps un chantier de numérisation. Et on écoute justement son patron Emmanuel Hogg, c'était en 2003.
L'histoire du monde contemporain, 60 années de radio, 50 ans de télévision, la mémoire des événements les plus tragiques ou des moments les plus futiles. Tout est gardé, conservé à l'INA, 535 000 heures de programme. Il faudrait 133 ans pour tout regarder sans s'arrêter. Ici, on ne fait aucun tri, on ne jette rien, tout relève du patrimoine. Mais les archives se détériorent, le son par exemple, alors il faut tout restaurer avant que tout ne s'efface.
Aujourd'hui, nous sommes dans une zone de risque. Nous savons que nous avons une quinzaine d'années devant nous avant que définitivement les images et les sons du passé meurent. Donc nous sommes engagés dans une course contre le temps et il faut numériser tout si c'est possible avant la barrière fatidique du temps que nous pouvons évaluer d'un point de vue technique à une quinzaine d'années.
Voilà Dominique Vinck, avec un exemple très particulier, celui du support sonore, hein, parce que quand on parle du livre, évidemment, on a affaire à d'autres supports, mais là, le son, c'est vrai que c'est très volatile, hein, et il faut se dépêcher, il y a une véritable course contre la montre.
Ça dépend des supports, hein. Le vinyle, ça va peut-être pas se dégrader aussi vite que ça, mais effectivement, ouais. Tout ce qui est sur les bandes magnétiques, elles s'oxydent, elles se dégradent, on a un vrai problème. Alors, est-ce que la solution, c'est de les numériser? C'est pas sûr. Hein, mais en tout cas, il faut au moins recopier sur un autre support.
Enfin, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que la durée de vie des supports numériques sont pas forcément meilleurs, loin de là.
Le numérique doit être lui-même sur des supports. Et les supports qu'on connaît, je pense, CD, DVD, c'est très très court. On voit qu'on on assiste à un retour de la bande magnétique pour sauvegarder des patrimoines, y compris en version numérique.
On en reparlera avec vous dans un instant. Dossier donc sur les humanités numériques, avec les messages des auditeurs franceinter.fr.
Hide your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened to me. Church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be.
Charles Pazzi, à l'instant sur France Inter, nous parlons des humanités numériques, la culture face aux nouvelles technologies. C'est vous, Dominique Vinck, qui signez ce livre au Cavalier Bleu. Et puis également à nos côtés, Dominique Cardon, pour parler un peu plus de sociologie autour de ces aspects. Il y a une question de Thomas sur le site de l'émission qui reparle de cette écriture sur l'ADN qu'on évoquait tout à l'heure dans les lunes de la science. Est-ce que c'est déjà utilisé en pratique, Dominique Vinck? Et concrètement, dans quel domaine ça pourrait servir?
C'est déjà utilisé dans la mesure où la preuve a été faite qu'on peut le faire en numérisant une image et en la transcrivant sur ADN, même chose avec un programme informatique. Donc ça, la preuve est faite qu'on peut le faire. La question, c'est de savoir est-ce que ça va être pertinent, rentable de le faire, parce que ce sont des technologies lourdes. Et puis surtout, c'est des technologies complexes pour pouvoir lire l'ADN.
Ouais.
Et la question, c'est pas pour le relire demain, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, dans plusieurs siècles.
Mais ça, c'est intéressant sur la durée de vie. En tout cas du support. On parlait de 700 000 ans.
700 000 ans, c'est génial, mais est-ce qu'on va voir les séquenceurs ADN et tout le savoir-faire pour les utiliser pendant 700 000 ans? C'est pas sûr du tout.
Ah ben ça se pose pour tous les supports de toute façon. Hein. Ce problème de l'obsolescence des supports et des machines.
Pas tous de la même manière. Par exemple, la gravure sur quartz, il suffit d'une loupe et on peut relire, même dans plusieurs centaines de milliers d'années. Par contre, la densité d'information est très faible.
Dominique Cardon, il y a une question de Sarah sur Facebook. Le fait de pouvoir tout consulter chez nous grâce à Internet, est-ce que ça a une conséquence sur nos vies sociales ?
Oula, oui, beaucoup, mais alors dans des domaines très très différents. Mais effectivement, la portabilité du savoir et son accessibilité changent les choses.
Ouais, sur le temps, déjà, dont on dispose.
Sur le temps, sur l'immédiateté. Vous vous souvenez, autrefois, alors c'est pour les vieux, mais on avait le quid. Hein, quand il y avait un repas de famille où il y avait un désaccord, on allait chercher le quid où il y avait un peu la réponse.
On n'en parle pas parce que c'était sponsorisé par une autre radio, en fait, que la nôtre.
D'accord. Et bon, aujourd'hui, on a son téléphone portable pour aller chercher l'information. Mais ça a des effets. Par exemple, ce que disait Emmanuel Hogg, de l'INA. Aujourd'hui, dans les débats politiques, hein, vous avez des hommes politiques qui disent « Ah ». Et immédiatement, on peut vérifier qu'autrefois, dans le passé, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ils ont dit « B ». Et les confronter tout de suite à une déclaration antérieure qui est contradictoire. Il était plus facile de dire « Ah » pour un homme politique, sachant que ça avait été oublié, que c'était difficile à retrouver, qu'on n'allait pas le voir tout de suite. Là, on peut tout de suite. Hein, et donc, ça change le rapport critique à l'information et à la connaissance.
Et c'est vrai aussi pour les professeurs. Hein. Il faut qu'on fasse très attention maintenant dans ce qu'on dit, parce que les étudiants, ils vont vérifier en direct ce qu'on raconte.
Exactement. Ben justement, un élève du lycée Léon Blum pour une question. Bonjour.
Alors, tout à l'heure, vous parlez de mise à disposition du savoir. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à une révolution intellectuelle comme l'avaient amorcé les Lumières avec l'encyclopédie au XVIIIe siècle ?
Dominique Vinc, c'est pour vous cette question ?
Peut-être. En tout cas, c'est vrai que l'accès assez généralisé à une grande partie du savoir va changer quelque chose. Exactement qu'est-ce qui va se passer, c'est pas sûr. Mais faudrait mettre une nuance quand même importante, parce qu'on dit accès à tout le savoir, mais c'est loin d'être vrai. Hein. Le patrimoine culturel européen, il n'y a que quelque chose comme 10-15% actuellement qui est numérisé. Le fait d'imaginer que tout est accessible en ligne, ça a comme conséquence que tout ce qui n'est pas en ligne devient encore plus invisible qu'avant. On devient même inconscient du fait qu'il existe plus que ce qu'il y a d'accessible sur Internet. Mais il est possible que quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau, va se mettre en place dans les manières de penser, de faire des liens entre les cultures.
Dominique Cardon, un complément de réponse à cette question.
Oui, parce que c'est une très belle question de se dire qu'au XVIIIe siècle, l'accès à la connaissance, à l'encyclopédie, a permis la distance critique vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des religions, etc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, le fait de cette accessibilité numérique de la connaissance transforme ? Alors, une démocratisation des savoirs. Mais aussi sans doute une tendance qu'il faut nuancer tout le temps, mais à l'égalisation de l'autorité des sachants. Hein, le médecin et le patient, le professeur et l'élève, l'homme politique
et le citoyen. C'est très bousculé
hein,
depuis quelques temps. Hein.
On en sait plus, et du coup le rapport un peu paternaliste, un peu vertical qu'on peut avoir avec le médecin, avec le journaliste, avec le mandarin, est en train lentement de se modifier. Mais il faut vraiment mettre une réserve pour se dire ça bouge très lentement et on n'a pas accès à tous les savoirs et cette démocratisation culturelle de l'accès à la connaissance est encore loin d'être réalisée.
Dominique Vinc, le premier livre numérique, vous le dites hein, dans votre ouvrage, date de 1971.
Oui, oui.
Donc il y a 45 ans.
Oui, c'est déjà pas tout à fait nouveau. Hein.
Ouais.
Les supports ont beaucoup changé. L'arrivée d'Internet a aussi beaucoup changé. On a l'impression que le numérique, ça vient avec Internet, mais c'est. Enfin, je dirais l'histoire des humanités numériques, le traitement informatique des sciences humaines, il a commencé dans les années 40, hein, presque au tout début de l'informatique, quand ce père jésuite spécialiste de l'œuvre de saint Thomas s'est rapproché du patron de IBM pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer une correspondance de la somme théologique de saint Thomas.
Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui justement de la part de numérisation du patrimoine culturel, alors en Europe en particulier, est-ce qu'on a des chiffres?
Oui, je les ai plus exactement en tête, mais je crois que c'est 13% des livres qui sont numérisés et quelque chose comme 3% des films, quelque chose comme ça. Ce n'est encore qu'une toute petite partie du patrimoine
donc
qui
a
été numérisé.
Il y a encore du boulot, beaucoup de travail. Tout le monde s'y attelle d'ailleurs aujourd'hui ? Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui concrètement produire ou disposer de matériaux autour du savoir, de la connaissance, sans entamer ce travail de numérisation.
Si on peut, mais de fait, presque toutes les institutions d'archives, de bibliothèques, musées, etc., se posent la question, voire numérisent massivement leur patrimoine, avec toute une série de questions, parce qu'il y a beaucoup de façons de numériser, et la façon de numériser fait qu'on conserve certains aspects, on en perd d'autres, inévitablement. Si on prend un un livre, la plupart du temps, on numérise le contenu du texte. Mais savoir la consistance du papier, la reliure, est-ce que le papier a jauni, est-ce qu'il y a des trous de verre dedans, etc., ça peut être un objet d'étude très intéressant. Il y a des disciplines scientifiques, notamment la codicologie, par exemple, dont...
La codicolo quoi ?
Pardon. Codicologie, c'est consiste à étudier la matérialité des livres.
Très bien, merci beaucoup, Dominique.
Donc si on numérise et qu'on n'a plus que le contenu du texte, on perd quelque chose.
Illustration de ce sujet avec la numérisation des œuvres d'art. On va partir en Ouganda. Vous allez voir l'utilité justement de procéder à ce travail. Extrait d'un documentaire qui était passé sur Arte dans Futur Mag en septembre 2014.
120 sites ont déjà été numérisés sur tous les continents. Ils sont choisis en fonction de leur importance patrimoniale et des risques qui pèsent sur eux. Un trésor qui a déjà fait la preuve de son utilité en Ouganda. Ce pays abrite les tombes de Kazubi datant de la fin du 19e siècle. Ici reposent quatre rois du royaume du Buganda. C'est un centre spirituel important.
Nous avons eu la chance, il y a 2 ou 3 ans, d'aller là-bas, de les scanner et de les préserver virtuellement. Un an plus tard, les tombes avaient été détruites par un incendie. Et quelques jours plus tard, nous avons eu un coup de fil. La personne au téléphone a demandé « Avez-vous toujours les numérisations des tombes ?» Et bien sûr, nous avons répondu oui. Elles sont dans les archives. Et ils ont demandé « Peut-on les utiliser pour la reconstruction ?»
Voilà, Dominique Vinck. Un exemple autour du patrimoine culturel.
Absolument.
Et des œuvres d'art, la façon dont on peut utiliser justement ces numérisations.
Absolument. Et on voit vraiment tous les avantages. En même temps, il ne faut jamais perdre de vue les limites. C'est-à-dire que la numérisation, en l'occurrence, c'est une numérisation des formes, c'est une numérisation éventuellement des couleurs, mais pas nécessairement de la nature des matériaux. Et c'est une information qui est parfois précieuse aussi. Donc, il faut être conscient quand on numérise qu'on garde certains aspects et qu'on en perd d'autres. Ou alors, il faut multiplier les numérisations pour tenter de tout garder, ce qui n'est pas gagné.
Dominique Cardon.
Oui, parce que, bon, humanité numérique, ça veut dire qu'on numérise le savoir existant, mais l'enjeu, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis tout ça en archive, alors ça fait des kilos, des mégaoctets de données, mais pourquoi faire ? Alors, ça peut être, par exemple, pour remettre matérialiser des objets. Hein. Alors, les rematérialiser virtuellement en 3D ou les refabriquer avec une imprimante 3D. Et puis, ça peut être de produire des connaissances. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des archives pour qu'on produise de l'intelligence, de la connaissance, de l'interprétation, de la sensibilité. Et sinon, on va porter le monde, tout le passé à portée de main, mais sans savoir quoi en faire. Et donc, un des enjeux, et des enjeux de recherche des humanités numériques, c'est de trouver des techniques de recherche, de calcul, d'agrégation, de simulation, de refabrication, pour que tout ce savoir soit lui-même producteur d'une nouvelle connaissance enrichissante pour nous. Sinon, ce stockage n'a peut-être
absolument
pas
et dans
sens.
Le domaine de l'architecture, par exemple, hein, on a de très beaux exemples. Palmyre pourrait aussi être une illustration de ce qu'on se dit en ce moment. Voilà. Sur le fait de numériser un site qui est détruit, au moins on a des objets pour pouvoir le reconstruire après.
Alors ça, les historiens, mais Dominique connaît ça mieux que moi, mais ils ont reconstitué la Rome antique avec ses différentes dans son architecture concrète, ses modes de vie et puis l'évolution historique. Donc on peut resimuler le passé grâce aux traces enregistrées qu'on a su numériser.
Dans cette tête au carré, il y a Dominique Vinck et Dominique Cardon, mais il y a aussi Dominique A avec Je t'ai toujours aimé. On se retrouve dans un instant sur France Inter.
Avant de perdre ma face et de m'éteindre comme un vieux mégot, mon tout dernier regard se portera sur tes fesses, où je cachais chaque nuit le plus précieux de mon magot. Avant de vomir mes adieux et de m'écrouler comme un vieux poireau, mon tout dernier regard se portera sur tes yeux, où je cache chaque nuit les plus brûlants de mes propos. Je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours aimé. Avant de sombrer dans l'erreur et de couler comme un vieux cargo, mon tout dernier regard se portera sur ton cœur. Où je cachais chaque nuit les plus honteux de mes sanglots, avant de perdre la face et de m'éteindre comme un vieux mégot. Mon tout dernier regard se portera sur tes fesses, où je cachais chaque nuit le plus précieux de mon magot. Je t'ai toujours aimé.
À l'époque de l'analogique, vous pouviez recevoir, je sais pas moi, un dossier papier archivé aux Archives nationales. Vous le mettiez sur une étagère, vous reveniez 100 ans après, il était toujours là, même si le papier avait tendance à se dégrader. Le numérique, c'est complètement différent, il faut sans arrêt le migrer. C'est-à-dire que le signal est très robuste, mais le support, non.
Un disque dur doit être changé au maximum tous les 5 ans, au risque de perdre des données. Un disque optique, comme un DVD, peut résister un maximum de 15 à 20 ans, à condition de ne pas être utilisé et d'être entreposé à l'abri de la lumière et de l'humidité. Pire, les appareils ou les logiciels qui lisent nos données seront obsolètes d'ici quelques années.
Voilà, et ça, ça fait partie des grands enjeux, hein, justement, oui, autour de ces supports de stockage, Dominique Vinck et Dominique Cardon. On n'a pas mieux fait pour l'instant que la pierre, finalement, et le papier. Hein.
Oui, oui, il y a un problème de durabilité, et notamment des formats de lecture. Parce que c'est les lecteurs qui posent problème, qui vont aussi évoluer. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des formats le plus ouverts possible, le plus libre possible, pour qu'on n'ait pas une entreprise qui a un format de lecture qui, disparaissant, nous empêche ensuite d'accéder Absolument. À ces données. Donc la question de l'ouverture et des normes et des formats est essentielle.
Ouais, mais comment on se préoccupe de cette question justement des lecteurs, pour pouvoir lire ensuite les informations avec des outils qui changent quasiment tous les ans maintenant, hein?
Oui, donc c'est une grosse question, c'est une question non seulement technologique mais politique, hein. C'est la question ouverture ou support et format propriétaire. Enfin, il y a des enjeux de société majeurs qui sont en train de se jouer maintenant. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est important que un public le plus large commence à se préoccuper de ce genre de choses, se fasse une opinion et fasse infléchir les évolutions, ouais. Parce qu'on voit bien qu'on peut aller soit vers quelque chose de très ouvert, très accessible pour tout le monde, soit de l'appropriation de plus en plus privé, du business, du chiffre.
Est-ce qu'on invente déjà des technologies du futur pour essayer de trouver une sorte d'universalité, en tout cas, aux objets, aux outils qu'on pourrait utiliser?
Mais il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là, notamment d'avoir des standards les plus durables possibles, les plus ouverts possibles, mais c'est vraiment des dynamiques qui se jouent maintenant et notamment dans la recherche.
Ouais. Donc c'est un vrai problème, Dominique Cardon, de sécurité pour le patrimoine aussi, là, on l'entend bien quand même. Hein.
Oui, il y a un enjeu comme ça. Simplement, l'idée qu'on puisse trouver la technologie parfaite qui stabilise la chose,
à
mon avis, personne n'y croit, c'est complètement vain. Le monde numérique, c'est un monde qui ne cesse de s'agiter, d'innover et d'apporter de nouvelles choses. Donc on ne va pas faire une usine à gaz qui va tout conserver pour un siècle. Simplement, il faut être très attentif à toutes les phénomènes, les phases et les transitions pour arriver à transporter les supports d'une innovation vers une nouvelle innovation sans détériorer la qualité initiale de l'enregistré. Et ça, c'est pas toujours évident.
Allez, une question. C'est Naïm, hein, c'est ça, hein, du lycée Léon Blum.
Je vais préciser qu'un disque dur, ça dure 5 ans, et un disque optique, ça dure 10 à 15 ans. Si on connaît les causes ou pas du fait que ça dure aussi peu de temps, ces disques, et si on les connaît, pourquoi on n'arrive pas à les contrecarrer, à améliorer la durée?
Très bonne question, Dominique Vinck. Alors, c'est la question de l'obsolescence, hein, justement.
Oui, c'est la question de l'obsolescence, et les enjeux sont énormes, qu'il y a énormément de chercheurs, notamment dans les sciences pour l'ingénieur, mais même dans la physique, y compris dans la physique relativement fondamentale, dans l'industrie, qui travaillent à ces questions-là, parce que les enjeux sont colossaux, non seulement pour le patrimoine culturel, mais pour presque toutes les activités économiques.
Mais est-ce qu'il y aurait un complot des industriels qui, justement, sont bien heureux que ces outils ne puissent plus s'utiliser au bout de 5 ou 10 ans, parce que ça leur permet d'en créer de nouveaux et d'en vendre, surtout de nouveaux?
Oui, mais ils ont aussi le problème de préserver leurs propres données.
Oui.
Et les entreprises ont une durée de vie en général de supérieure à 15 ans.
Ouais. Dominique Cardon.
Oui, il y a toujours une obsolescence programmée, voilà, dont on est complice aussi parce que nous-mêmes, nous changeons nos accès, nous changeons nos services, nous allons sur un nouveau type de réseau social, nous changeons. Mmh. Donc, en fait, il y a effectivement une forme d'accélération de la société et le numérique contribue à cette accélération de la société dans laquelle industriels et usagers ne cessent de mettre en place une nouvelle boucle pour aller faire autre chose autre part avec d'autres dispositifs et du coup, ça crée cette instabilité. Il faut vraiment qu'on apprenne à vivre dans l'instabilité. Je pense que cette idée qu'on pourrait stabiliser le bazar n'a pas grand sens. Il faut simplement qu'on trouve des règles éthiques et politiques et déontologiques pour arriver à vivre de la continuité dans un univers qui, de toute façon, est un univers à très grande évolution. On a vu tout à l'heure qu'on allait le connecter à la biologie. Vous imaginez tous les changements qui vont arriver.
Est-ce qu'on assiste à la mort du livre papier, Dominique Vinc, ou pas, justement? Vous parliez d'un prolongement.
C'est pas sûr du tout. D'une part, parce que, justement, il y a beaucoup de questions qui se posent quant à la pérennité des supports informatiques. Et une des conséquences, c'est que beaucoup de bibliothèques préfèrent conserver au moins un exemplaire papier des ouvrages au cas où il y a un problème de migration des supports informatiques, ou bien au cas où on met au point une nouvelle technologie de numérisation qui permette de capter plus d'informations du livre et auquel il faudrait revenir à l'original. Donc, et ça c'est une des raisons, mais il y a d'autres raisons, c'est que il y a quand même beaucoup, l'immense majorité des lecteurs préfèrent toucher, manipuler, voilà. Il y a un attachement sentimental.
Et ça c'est pas rien.
Et c'est pas rien. Et même parfois c'est rien que pour les montrer dans sa bibliothèque, quitte à les lire à l'écran, mais pour montrer aux invités, enfin pour les collections de CD, c'est pareil.
Dominique Cardon.
Oui, il y a une grande loi de l'histoire des technologies, et notamment des technologies de communication, c'est qu'on pense toujours, nous, que ça se substitue. La nouvelle technologie va se substituer à l'ancienne. En fait, jamais. Hein. Donc elles se superposent l'une sur l'autre. La télévision n'a pas tué la radio. Voilà. Et l'Internet n'est pas en train de faire disparaître la télévision ni la radio. Et la numérisation du livre. Donc en fait, on ajoute quelque chose de nouveau. Et en fait, on superpose de nouvelles piles de technologies qui viennent s'enchasser l'une dans l'autre. Du coup, en transformant le rôle de la technologie, c'est qu'effectivement, le livre va peut-être avoir une dimension plus conservatoire que manipulatoire. Parce que dans la manipulation de la connaissance et du texte, on va plutôt utiliser des tablettes.
Ouais. Une question dans notre jeune public. Bonjour, jeune homme.
Bonjour.
Quel est ton prénom ?
Malcolm.
Malcolm, on t'écoute.
Donc, d'abord, je voulais dire que l'être humain, en fait, enfin, selon moi, a peur de perdre, en fait. Voilà, on a toujours cette volonté de recréer, de reformater. Et je voulais poser une question par rapport à ça. Est-ce que cette peur-là va pas nous amener au fait que la communauté scientifique, par exemple, voudra donc recréer le génome humain ? C'est... Voilà quoi.
Alors Dominique Vinc, vous avez une réponse à apporter à cette question?
C'est une grande question. En plus, si on fait la connexion avec le génome humain, c'est une question de fond. Mais il y a effectivement une angoisse de perdre des informations. Mais ça, c'est typique de notre société contemporaine. Parce que si on remonte à l'Antiquité grecque, par exemple, la gestion des connaissances était plutôt à l'économie. Et donc, chaque fois qu'on avait une nouvelle connaissance, on la mettait à la place des anciennes et on faisait disparaître le reste. Donc, il y avait une économie dans le sens où on travaillait à l'économie. Ici, on a plutôt tendance à imaginer qu'on va pouvoir tout conserver, ce qui est faux. On perd beaucoup, on a toujours perdu beaucoup, mais il y a l'idée qu'on va pouvoir tout conserver et on voit bien que ça pose des tas de problèmes de faisabilité, de comment, et puis on risque de s'embarrasser avec un poids énorme de savoir.
Dominique Cardon.
Oui, il y a toujours une nostalgie de la perte qui est d'ailleurs accompagnée aujourd'hui d'une hubris de l'archive complète, c'est-à-dire de disposer de tout constamment, mais qui est très liée à cette représentation de les technologies comme vase communicant. Si on a rempli un vase, on a vidé l'autre, ce qui n'est jamais le cas. Hein. On a avec le monde virtuel aussi toujours cette idée que si on est beaucoup en train de communiquer à travers des écrans du téléphone ou de l'internet, notre vie réelle se viderait parce qu'on serait plus en face à face ou en rencontre avec les gens. Or, toutes les enquêtes montrent qu'en fait, les gens qui sont très connectés, sont aussi des gens qui ont une vie sociale et active très intense. Donc, en fait, ce qui nous arrive, et ce qui est peut-être aussi un risque, c'est qu'on superpose, donc on multiplie les tâches, donc on fait plusieurs choses en même temps, donc on est un petit peu addict à toutes ces services et ces technologies qui nous arrivent, mais qui ne viennent pas se substituer à l'ancien.
Allez, une dernière question de Léon Blum, et ça n'est pas Léon qui pose la question, mais...
Alexis,
on t'écoute.
Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de côtés négatifs à cette numérisation. Mais alors, ça serait quoi le grand intérêt de numériser tout ce qu'il y a autour de nous ?
Alors, Dominique, pour terminer, on l'a un petit peu évoqué quand même, hein, sur la sauvegarde du patrimoine par exemple.
Il y a la sauvegarde, il y a l'accès, un accès à beaucoup plus d'informations, et à partir de là, ça permet d'aller plus loin sur un certain nombre de questions, ça permet de supporter un dialogue interculturel, ça permet d'apporter des réponses à des questions qu'on se posait et auxquelles on ne savait pas répondre sans pouvoir, par exemple, comparer des époques différentes, des régions du monde différentes. Je dirais que ça ouvre énormément de possibilités, et à ça, il faut greffer tout ce qu'on peut inventer du côté des algorithmes qui vont traiter, exploiter ces masses d'informations. Donc en fait, on ouvre plein de possibilités. Ouais. C'est clair qu'il ne faut pas perdre de vue que ça n'a pas que des avantages.
Et on aura l'occasion d'en reparler plus longuement une autre fois dans cette émission, parce que le sujet est extrêmement intéressant et particulièrement concernant. Merci beaucoup à tous les deux. Dominique Vinck, ce livre « Humanité numérique, la culture face aux nouvelles technologies », c'est aux éditions du Cavalier Bleu, et puis également sur support Kindle pour ceux qui préfèrent. Tout comme votre livre, hein, Dominique Cardon, j'imagine, qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l'heure des big data, c'est au seuil ». Merci beaucoup à tous les deux.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec Le Supplément, Sciences et médecine du monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de parachute.
Oui Mathieu, de parachute, un mot inventé par le physicien français Louis-Sébastien Lenormand qui, le 26 décembre 1783, a sauté du haut de la tour de l'observatoire de Montpellier, accroché à une espèce de grand parasol et s'en est sorti indemne. Alors je vous dis tout ça parce que si le parachute a désormais plus de 2 siècles, cela n'empêche pas qu'il existe à son sujet un grand silence, un silence scientifique. Jamais aucune étude comparative n'a été menée pour mesurer avec précision l'apport du parachute à la survie de ceux qui en sont équipés. Pour dire la chose autrement, lorsqu'on saute d'une très grande hauteur, est-ce qu'on se casse en moins de morceaux avec un parachute ou sans ?
Et ça semble assez évident de ne pas avoir testé tout ça, Pierre, non ?
Ah mais non, pas du tout. La science peut et doit tout mesurer, mon petit Mathieu. Y
compris
ce qui semble évident, surtout ce qui semble évident. Après tout, il existe bien des cas de miraculés qui ont survécu à des chutes vertigineuses et à l'inverse, des parachutistes qui se tue. C'est donc une lacune intolérable. Bon, je me calme. Comme l'explique avec humour un article qui vient d'être publié par une équipe allemande, cette lacune intolérable est due à la déclaration d'Helsinki qui empêche de mener des expériences dangereuses sur des êtres humains vivants. Ah oui. Même s'il doit être assez facile de trouver quelques crétins prêts à accepter de tester la résistance de leur squelette à un saut depuis le sommet de la tour Eiffel, l'éthique l'interdit.
Alors comment ils ont fait, ceux qui ont voulu vraiment tester les choses là ?
Alors ils ont dû trouver autre chose et embaucher comme cobaye Erwin, le gentil patient. En Allemagne, Erwin, le gentil patient, est une poupée que les parents offrent à leurs enfants quand ils leur prédisent un avenir de chirurgien ou de tueur en série, c'est pas exactement la même chose. Les bambins peuvent lui ouvrir le ventre pour jouer avec ses organes internes en tissu, puis tenter de les remettre à la bonne place. Alors pour les besoins de l'expérience, les auteurs de l'étude ont tout retiré, sauf le cœur, et remplacé les autres organes par des ballons remplis d'eau ou d'air. Pour les poumons, par exemple. Ils ont aussi construit à Erwin une colonne vertébrale et un bassin avec des briques de Lego. Ils sont très joueurs. Et puis, ils l'ont balancé du haut d'une tour de 20 mètres de haut, 25 fois accroché à un parachute et 25 fois sans parachute. Et après chaque saut, un véritable médecin légiste, récupérait Erwin et vérifiait sa composition interne. Résultat, le parachuté n'a eu aucun traumatisme crânien et pour ainsi dire, aucune blessure. S'il avait été humain, il aurait survécu à tous les sauts. On ne peut pas en dire autant de la version sans parachute d'Erwin, qui s'est brisé les os et explosé les organes plus souvent qu'à son tour. Bon, maintenant, on peut dire que la science a parlé et qu'un parachute, c'est quand même utile.
Voilà, l'expérience a été faite. Pierre, quoi d'autre dans le supplément Sciences et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui ?
Cette semaine, le grand dossier est consacré au danger de l'antibiorésistance après la découverte aux États-Unis d'une souche de bactéries qui résiste à tous les antibiotiques disponibles.
Voilà, dans les pages du Monde, on vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle chronique improbable. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidal.
Affaires sensibles, chaussez vos lunettes. Et quel est le thème aujourd'hui ?
Le chroniqueur vous a appelé mon petit Mathieu. Eh bien, mon petit Mathieu.
Oui.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'incendie du collège Payron le 6 février 1973. C'est une histoire dramatique mais qui a débouché sur des procédures de sécurité fortes, enfin on l'espère. Notre invité, ce sera Sibylle Vincent Don du journal Libération, notre partenaire tous les 15 jours.
Et salut aux élèves de première du lycée Léon Loum qui étaient avec nous aujourd'hui à Créteil. Merci d'être passés dans la tête au carré.